Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Aujourd'hui, ce n'est un mystère pour personne. L'islam fait peur à de plus en plus de Français et parmi eux, les catholiques ne font pas exception. Pour faire face à cette peur, Vivante Église a décidé de faire de la place dans sa programmation à des émissions de dialogue islamo-chrétien. Le but, manifester le désir des églises de Midi-Pyrénées de vivre en paix et en frères avec les musulmans, mais aussi initier un dialogue vrai entre croyants, n'ayant pas peur de voir ce qui nous unit autant que ce qui nous oppose. Première émission ce matin, autour de la figure de Jésus. Voilà, donc ce matin, cette émission Musulmans chrétiens, que pense-t-il de Jésus? Autour du plateau, nous sommes avec Abdel Hadi Ali Renan. Vous êtes président de l'association AISA, Association Internationale Soufi Alaoui. Bonjour.
Bonjour.
Le frère Yves Stussel, jésuite. Vous êtes formateur au Cotopaïs. Bonjour.
Bonjour.
Ça va, j'ai bien prononcé votre nom?
Très bien.
C'est à peu près ça.
Merci.
Et le père Jean-Jacques Rouchy, délégué au dialogue interreligieux pour le diocèse de Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Voilà, qu'on remercie, car c'est grâce à lui qu'on a construit cette première émission qui, on l'espère, deviendra régulière. Alors, je le disais en introduction, hein, je crois que l'émission et l'introduction étaient claires. Le but, c'est pas de se mettre sur la figure. Au contraire, c'est faire œuvre de paix, mais aussi de vérité, parce que je pense qu'il y a une partie des auditeurs qui ont envie de connaître l'islam, mais aussi de savoir en quoi l'islam nous rejoint et à quel moment il se sépare de nous. Alors, au début de cette émission, puisqu'on va parler de Jésus, je me disais que c'était important, probablement pour tout à chacun, de commencer par dire ou redire que Jésus a existé, ce qui n'est pas du tout évident dans la tête de beaucoup. Peut-être que Père Jean-Jacques Rouchy, vous pouvez commencer, ouvrir le bal.
Oui, alors très rapidement, Jésus est un personnage historique. On a des témoignages, bien sûr, dans les textes de l'Écriture, mais aussi dans des auteurs non chrétiens, comme Tacite, comme Pline le Jeune, ou auteurs juifs comme Flavius Joseph, donc des gens du 1er siècle. Et il est avéré que Jésus a existé. Alors ensuite, la figure de Jésus pour des croyants, pour des mystiques, pour d'autres traditions, pour des lectures artistiques. Jésus échappe un petit peu au cercle étroit de la dogmatique, des croyants, ou même de la spiritualité, mais sa réalité historique est complètement avérée. Alors après, est-il le Fils de Dieu? Est-il le Sauveur? Est-il mort sur la croix? Quel est son rôle dans l'histoire du monde? Pour les chrétiens, il est la parole de Dieu, l'action de Dieu, le Dieu créateur. Il est l'inspirateur de beaucoup de dons de vie, le modèle moral, le modèle spirituel. Enfin, il y a tout un tas d'harmoniques, mais tout cela repose sur un socle historique avéré.
Alors avant qu'on aille plus loin aussi, Abdel Ali Renan, est-ce que vous pouvez nous dire, vous êtes donc soufi alaoui, alors qu'est-ce que ça veut dire soufi? Qu'est-ce que c'est comme, branche voilà. Dans l'islam ou comme spiritualité particulière dans l'islam?
Donc normalement, comme vous le savez, donc, l'islam il se base sur trois fondements, donc les trois fondements de la religion qui sont l'islam, la foi et l'ihsan. L'ihsan ça veut dire l'excellence qui représente cet aspect spirituel, cet aspect ésotérique de l'islam qu'on appelle le soufisme. Donc d'ailleurs, pour parler aussi de Jésus, toujours on se base et on revient à la source, qui est normalement le Coran, et le message divin qui est porté par le prophète Mohammed, alayhi salam. Le prophète Mohammed, sur lui, le salut et la paix. Donc normalement, cet aspect spirituel, cet aspect de soufisme, qui est un peu l'aspect intérieur de la religion musulmane.
D'accord, okay. C'est en tout cas souvent comme ça qu'on vous présente.
Hein. On présente, vous présente un peu
c'est comme spirituel, la branche spirituelle de l'islam, c'est
exactement,
ça?
Exactement, c'est la partie spirituelle et la partie ésotérique de l'islam.
D'accord. Est-ce que vous êtes nombreux, les soufis? Est-ce que vous êtes la majorité des
non, on n'est pas nombreux.
Des musulmans dans le monde?
On n'est pas nombreux. Par contre, les sunnites représentent à peu près 80% de la population musulmane et les soufis à peu près entre 10 et 15% des soufis qui existent sur le monde.
Alors, Père Jean-Jacques Rouchy, pardon, je fais deux, trois introductions quand même, mais c'est important. Vous avez l'habitude de nous dire, hors antenne, qu'en fait, c'est souvent avec les soufis que le dialogue islamo-chrétien est le plus simple ou le plus évident. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il en est et pourquoi, peut-être?
C'est très simple, c'est que nous nous retrouvons dans une posture intérieure. Au-delà des différences dogmatiques que nous ne nions pas, au-delà des problèmes historiques, nous nous retrouvons à un niveau de profondeur, tout simplement, comme disait Christian de Chergé avec Mohamed.
Christian de Chergé étant
va, donc... Christian de Chergé, qui est donc l'un des martyrs hein, de l'Algérie, et qui...
Les moines de Tibérine.
Qui prenait souvent du temps avec un musulman pour échanger spirituellement. Et voilà, nous allons creuser notre puits. Au fond de notre puits, qu'est-ce que nous allons trouver? De l'eau musulmane ou de l'eau chrétienne? Et le musulman lui a répondu, non, on va trouver l'eau de Dieu. C'est-à-dire qu'au-delà des différences que nous reconnaissons et avec lesquelles nous nous faisons, nous nous retrouvons dans une expérience de Dieu. Et c'est ce qui fonde notre conscience d'être des créatures de Dieu et même d'avoir peut-être en commun aussi un certain patrimoine spirituel, comme ça va nous être dit, au-delà des différences dogmatiques, encore une fois, que nous reconnaissons pour les musulmans et même les soufis, Jésus n'est pas Dieu, il n'est pas mort sur la croix, bon, il y a des choses essentielles ça, oui. qui nous séparent, mais une attitude de Jésus comme un chemin vers Dieu nous est un petit peu commune.
Alors, rentrons dans le vif du sujet. Abdel Ali Renan, à vous l'honneur sur cette question. Donc, qui est Jésus dans votre tradition religieuse? Alors, pendant l'émission, évidemment, vous n'avez pas tout dire maintenant. On reviendra à certains aspects particuliers, etc. Mais si vous étiez interrogé dans la rue par quelqu'un qui vous dit, voilà, qui est Jésus pour vous, musulman et soufi, qu'est-ce que vous diriez?
Voilà, donc par rapport à l'existence de Jésus, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure au début de l'émission, donc revenons à la source qui est le Coran et la Sunna, ça veut dire les dires du prophète, les hadiths. Donc selon le Coran, normalement Dieu disait dans le Coran, et c'est les paroles de Dieu, mais c'est Jésus qui parle. Il disait dans la sourate 3, verset 50, « Me voici confirmant ce qui existait avant moi de la Torah et déclarant licite pour vous une partie de ce qui vous était interdit. Je suis venu à vous avec un signe de votre Seigneur, craignez-le et obéissez-moi. » Ça, c'est la sourate 3, verset 50. Ça veut dire que c'est Dieu qui parle, ce sont des paroles divines, mais c'est sur la langue de Jésus. Et aussi, le prophète, il le confirme bien, le prophète Mohammed, sur lui le salut et la paix. Et en parlant de Jésus aussi, sur lui le salut et la paix, il disait, « Nul n'est plus en droit de se réclamer de Jésus et Marie que moi-même, car entre lui et moi, il n'y a aucun prophète. » Donc pour voir déjà, il existait. D'ailleurs, s'il n'existait pas, on ne serait pas présent ici pour qu'on puisse parler de cette personne. Et aussi, parce que normalement, chez les soufis, il a une place très très importante. Parce que dans le cheminement chez les soufis, il y a un maqam qu'on appelle une station. En passant par cet état de messianique, cet état de Jésus, que normalement c'est l'état la plus élevé pour le cheminement des soufis dans leur tradition.
Mais alors, comment vous résumeriez? C'est-à-dire que c'est quoi? C'est un prophète? C'est une figure spirituelle particulière? On a l'impression qu'il a une place à part, mais comment vous expliciteriez cette place à part, en fait?
La place de Jésus chez les soufis, c'est un prophète de l'islam. Parce que le Coran aussi, il le confirme. Nous avons cru à tous les prophètes en citant Abraham, Moïse et Jésus parmi les prophètes. Ça veut dire pour les musulmans, et dans la tradition, je parle bien dans la religion islamique, le Jésus, c'est comme un prophète. Et il représente l'âme de Dieu, l'esprit de Dieu, le verbe de Dieu qui représente chez les musulmans.
Le verbe de Dieu, vous dites ça aussi?
Le verbe de Dieu.
Alors, frère Yves Stessel, même question, côté chrétien. Alors évidemment, c'est probablement plus connu de nos auditeurs. Une question évidemment qui est introductive, hein, qui résume un petit peu le propos qu'on va avoir dans cette émission. Chez les chrétiens, quelle est la place de Jésus? Allez-y.
Alors, je pourrais répondre à cette question en disant d'abord que il est le Fils de Dieu, fait homme, pour apporter le salut au monde par sa mort pour nos péchés et sa résurrection d'entre les morts. Mais c'est ce que dit le catéchisme de l'Église catholique. Mais ces mots de salut, de résurrection, de Fils de Dieu, pour apporter le salut, sont des mots qui aujourd'hui ont un peu du mal à rejoindre le concret de la vie de nos contemporains.
J'allais vous le dire, oui.
Et donc j'aimerais dire un petit peu comment moi je le perçois dans ma propre vie, dans ma propre relation au Christ. Comment en parler alors? Mais pour moi personnellement, il est d'abord cet homme, Jésus, qui, lorsque je tente de le contempler profondément dans sa manière d'agir avec ceux qu'il rencontre, me révèle quelque chose de ce que je ne sais pas nommer autrement que Dieu. Donc c'est dans sa manière d'agir, dans sa manière d'être en relation avec les autres, qu'il me révèle quelque chose de ce que je nommerais aujourd'hui Dieu.
D'accord, est-ce que vous avez un exemple?
Oui, par exemple, ça pourrait être sa manière de, très concrètement, d'entrer en relation avec les gens, de la manière de les toucher, la manière de leur parler, la manière de les remettre debout, la manière de voir en eux quelque chose de vivant et quelque chose qui est une personne qui est appelée à vivre davantage.
Donc vous voulez dire qu'en fait Jésus donc est un homme pour vous, enfin pour vous et pour les chrétiens, c'est, oui. Il est vrai homme.
Oui, vrai homme.
Et en même temps, il révèle quelque chose de Dieu parce qu'il est, et donc vous le reconnaissez comme vrai Dieu.
Comme vrai Dieu, comme fils de Dieu, oui. Alors, ça c'est un acte de foi. C'est-à-dire c'est quelque chose que je peux, moi, auquel moi je peux adhérer, mais libre à chacun d'y adhérer ou non.
Alors, si on va plus loin, deuxième question, c'est quel est son message pour les chrétiens? Si vous deviez résumer, alors vous l'avez dit avec les mots de la foi, si vous deviez le redire, redire pour le grand public, quel est le message que les chrétiens retiennent en fait de Jésus?
Alors, moi, le risque, en parlant de message, ce serait de réduire Jésus à un message avec des concepts qu'il aurait formulés clairement et auxquels il suffirait d'adhérer ou qu'on rejetterait parce qu'il ne nous satisferait pas. Comme par exemple le message du communisme ou du capitalisme ou n'importe quel autre type de message. Mais en fait, pour moi, Jésus, c'est avant tout une personne et pas un message avec qui on a à vivre une relation d'amitié profonde. Comme deux véritables amis. Une relation qui transforme, non pas d'abord par un message extérieur à moi, mais par une relation d'amitié intime et vivante vécue au quotidien. Alors, ce n'est pas une lettre morte, un message mort, c'est quelque chose de vivant.
Voilà, donc c'est quelqu'un avec qui vous avez une relation, même s'il est mort il y a 2000 ans, c'est le mystère de la foi chrétienne.
Oui,
néanmoins, bon, si vous deviez résumer le message du Christ, alors évidemment c'est difficile de résumer les évangiles en quelques phrases, mais malgré tout, s'il est le verbe de Dieu, enfin il est le verbe de Dieu pour les chrétiens aussi, peut-être différemment, et dans ces cas-là, qu'est-ce que ce verbe est venu dire ou révéler de Dieu pour les chrétiens?
Alors si je reprends les paroles de l'évangile dans l'évangile de Jean, peut-être la parole principale c'est « aimez-vous les autres comme je vous ai aimé ». Ça pourrait être une manière de dire quelque chose de ce à quoi il nous invite à vivre à travers cette relation qu'on a avec lui. Ça peut aussi être « je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ou encore « je ne vous appelle plus serviteur car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître, je vous appelle ami ». Parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ça peut aussi être encore dans Jean 3, verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. »
Alors, autre question, parfois qui est posée aux chrétiens, c'est, là, on vous a entendu dire, en fait, qu'il, quelque part, il se présente en modèle, il dit qu'il est le chemin, la vérité, la vie, mais est-ce que Jésus a jamais dit de lui-même qu'il était Dieu?
Alors, directement, oui et non. C'est-à-dire, directement, non, mais il n'a pas contredit les gens qui voyaient en lui, loin, le Messie, mais ce n'est pas directement le Fils de Dieu, mais celui, le Messie, auquel croyait le peuple hébreu et dont on nous parle dans tout l'Ancien Testament.
Donc il n'a jamais dit directement qu'il était Dieu, c'est ça? Mais en tout cas, il n'a pas apporté la contradiction. Père Jean-Jacques Rouchy, un éclairage là-dessus.
Les textes que nous avons sont des témoignages de foi qui reprennent probablement beaucoup de paroles que Jésus a dites lui-même. Alors quand Jésus dit « avant qu'Abraham soit, je suis », ou « quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, vous saurez que je suis », »,« je suis » dans le texte grec, c'est la traduction du mot hébreu qui désigne Dieu. Donc indirectement, la foi des premiers témoins qui a été mise par écrit dans l'Évangile est tellement forte qu'elle porte la conviction que Jésus non seulement savait, mais quand les conditions lui paraissaient favorables, disait qu'il était tout proche de Dieu, qu'il était l'action et la parole de Dieu. Alors, il ne le disait pas de façon dogmatique et discursive, mais sa façon d'être était tellement proche de Dieu qu'effectivement, il manifestait la présence et l'amour de Dieu, et surtout la paternité de Dieu. Vous parliez tout à l'heure, l'essentiel pour la foi chrétienne, c'est que Jésus est venu révéler une parenté. Tout homme est considéré par Dieu comme fils ou fille et donc comme frère universel.
Frère Yves Stassel, vous voulez ajouter quelque chose ?
En tout cas, il reconnaît Dieu comme son père. Il en parle comme d'un père. Mais fils de Dieu, c'est des concepts qui sont très, très chargés. Et précisément, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Vodilà, c'est difficile.
Alors Abdel Ali Renan, on a compris donc que vous dans l'islam, enfin si j'ai bien compris, Jésus a une place très particulière. Vous avez utilisé le mot verbe de Dieu. Vous avez dit que, vous avez fait esprit de Dieu. Quel est dans ces cas-là l'essentiel du message pour les musulmans que Jésus a délivré, sachant aussi vous pouvez en profiter pour dire quelle place a le Nouveau Testament dans la tradition musulmane, c'est-à-dire que vous ne reconnaissez pas le Nouveau Testament comme faisant partie de votre tradition spirituelle.
Bon, si je peux encore mettre le point sur sa place dans l'islam, déjà, lui, il est considéré comme un être spirituel exceptionnel. Donc, c'est une exception qui était confirmée par le prophète. Le prophète, il a annoncé le retour de Jésus pour les temps messianiques. C'est-à-dire, là où la paix, la justice, l'égalité, ils vont se triompher sur terre. Et par rapport à ça, dans la conscience, musulmane, le retour de Jésus est une espérance. Donc déjà, là, ça montre la place de Jésus chez les musulmans, en cas particulier les soufis. Donc si vous voulez, normalement, son retour, ça va être la fin d'un cycle apocalyptique et au cœur duquel se trouvent les germes du renouveau. Donc dès lors, les hommes s'uniront pour œuvrer au bien et le vivre ensemble pour l'humanité et de terrasser le mal. Donc normalement, tout cela, par rapport à un verset coranique aussi, il signifie que Jésus... Il était intemporel. Donc quelqu'un, il ne peut pas être né cerné, né connu, né localisé, parce que le message, son message spirituel, le message de Jésus ne peut pas se révéler à celui qui ne va pas à la source même d'où elle émane normalement, si vous voulez, cette réalité divine. Et pour les soufis, Jésus, elle représente l'émanation ou la démonstration physique, si vous voulez, que l'être, par une voie initiatique, peut retrouver l'essence universelle qui donne l'équilibre et l'harmonie au ce monde.
Oui, mais alors quel est son message dans ces cas-là ? On a compris à peu près sa place, mais qu'est-ce qu'il est venu dire de particulier, en fait, Jésus ? Ou s'il avait un message qu'il faut retenir pour vous, musulmans ou soufis, quel est-il ?
Son message, normalement, il est venu pour donner et confirmer l'amour de Dieu, parce qu'à un moment donné, il faut voir aussi l'histoire. Avant Jésus, il y avait une rupture, il y avait beaucoup de prophètes, des envoyés qui sont venus entre Moïse et Jésus. Lui, il est venu... Parce qu'à un moment donné, il y avait les chefs religieux qui régnaient et qui donnaient les textes selon leur désir. Donc Jésus, il est venu pour élever et pour donner cet aspect spirituel qui est plus élevé. D'où sa naissance, elle était miraculeuse. C'est un miracle que Dieu, normalement, il a donné. C'est à l'image d'Adam. Parce qu'Adam, il est venu sans père, sans mère. Mais Jésus, il est venu avec déjà une mère.
Alors, on va faire une première pause. On a déjà beaucoup d'éléments. On va revenir comme dans une deuxième vague pour essayer de mieux comprendre, entre autres en reparlant de la naissance dans la tradition musulmane et chrétienne, de la naissance de Jésus. Première pause musicale et puis après, on va se laisser décanter tout ça.
Thank you.
Ce matin, donc, une émission musulman chrétien, que pense-t-il de Jésus? Si vous nous prenez en cours de route, c'est donc une émission de dialogue islamo-chrétien, le but étant de manifester en ces temps difficiles et troublés le désir de Radio Présence de rester en amitié, en dialogue avec les musulmans, mais aussi d'essayer d'avoir un dialogue simple et vrai. Et je vous rappelle qu'autour du plateau, donc, nous sommes avec Abdel Ali Renan, qui est président de l'association AISA, Association Internationale Soufi Alaoui, le frère Yves Stessel, jésuite, formateur au Cotopaïs à Toulouse, et le père Jean-Jacques Rouchy, qui est délégué au dialogue interreligieux pour le diocèse de Toulouse. Alors, père Jean-Jacques Rouchy, est-ce que vous pouvez nous faire peut-être une précision, vous la faisiez hors antenne, de ce qu'a dit Abdel Ali Renan sur la place de Jésus, puisque c'était le sujet et l'essentiel de son message. Il l'a précisé, mais une partie de ce qu'il a dit concerne particulièrement les soufis. Quelle distinction vous feriez pour les musulmans en général, ou peut-être là où certains musulmans ne vont pas jusque-là?
Je pense que Abdel Ali vient de formuler d'une façon très, très convaincue et très croyante, donc le rôle actuel de Jésus, bon, pas seulement comme un prophète du passé, mais aussi comme, on dirait, un inspirateur de l'action présente et presque un acteur de l'histoire en train de se faire. Voilà. Peut-être qu'à ce niveau-là, le musulman classique trouverait qu'il va un petit peu loin, de même dans l'affirmation que Dieu est amour. Alors, effectivement, c'est le cœur du soufisme, hein, qui est dans l'islam, cette espèce de cri du cœur par rapport à une foi qui peut paraître un petit peu dogmatique et peut-être un peu manquant de chair et d'affectivité. Effectivement, le soufisme est là pour rappeler que dans la religion, il y a aussi de l'émotionnel, de la dévotion, de l'attention aux autres, et donc, d'une certaine manière, Dieu est amour. Alors, on ne dirait pas ça de façon aussi brute de décoffrage dans le sunnisme classique, mais de plus en plus, il y a une évolution dans le discours, et je crois dans la conscience des musulmans, surtout en Occident, du fait que cet aspect d'un Dieu amour est aussi présent dans la tradition islamique.
Alors, frère Yves Stessel, maintenant revenons sur Jésus, donc sur la naissance de Jésus. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler, pour le très grand public, qu'est-ce que disent les chrétiens de la naissance de Jésus?
Alors, bien sûr, il est né à peu près un peu plus de 2 millénaires. Alors, les récits évangéliques nous parlent de Bethléem, donc une petite bourgade en Palestine. Mais avant d'entrer plus en détail, j'aimerais dire peut-être un mot sur les évangiles et sur la manière dont on peut les entendre. Ce ne sont pas des comptes rendus écrits par de quelconques reporters qui auraient voulu informer point par point de façon à rester le plus proche possible de la réalité d'un événement qui s'est déroulé dans un lieu et un temps précis. Ce n'était pas leur but. La visée des évangiles, ce sont des écrits qui ne se veulent pas d'abord relater des faits précis et informés, mais plutôt de dire quelque chose d'un sens de la vie. Et je pense qu'il est important d'avoir ça en arrière-fond quand on parle de la naissance et des récits de la naissance du Christ.
Alors allez-y, du coup, qu'est-ce que disent dans ces cas ces récits et quelle est la signification qu'ils portent derrière ça?
Alors, ces récits disent d'abord que c'est quelqu'un qui est né dans un lieu précis, à Bethléem, dans des conditions difficiles, ça dit quelque chose du fait que Dieu a voulu venir s'incarner et va venir rejoindre l'homme dans le lieu le plus petit qui soit, au plus profond de ce qu'on pourrait appeler la terre, et pas comme quelque chose d'abord spirituel, mais quelque chose qui est incarné dans une chair.
D'accord, puisque donc il est né dans une étable.
Oui,
enfin, voilà. Enfin, c'est, oui. Ou équivalent, c'est ça? Enfin, oui, dans un lieu très simple, en tout cas.
Oui, dans un lieu très simple, voilà.
D'accord. Et donc, il est né aussi miraculeusement, puisque, enfin, il n'est pas né de son père biologique, de son père Joseph. Alors ça, est-ce que vous pouvez préciser?
Oui. Alors, oui. Mais c'est une question là encore qui est peut-être pas essentielle de dire qu'il est pas né, voilà. Mais elle veut nous dire que il y a une relation fondamentale entre Jésus, cet homme, et Dieu, qui est son père, fondamentalement. Mais je crois que...
Mais préciser quand même, parce que tout le monde n'est pas, enfin, ne connaît pas. C'est-à-dire que donc il est né donc d'une femme, Marie, mais il est conçu de l'Esprit-Saint.
Voilà.
Et donc il est né donc à Bethléem, etc. Alors là-dessus, est-ce que la tradition musulmane, Abdel Ali Renan, que dit la tradition musulmane de la naissance de Jésus?
Oui, donc normalement, selon les autorismes musulmans, donc si Jésus, de par sa naissance, échappait aux lois physiques de la vie, donc sa mort devrait aussi échapper à celle de tout, de chacun. Donc normalement, selon le Coran, si vous voulez, normalement, comme on le sait bien, Marie, elle vivait, elle a grandi dans la retraite. Donc le Coran disait...
Allez-y, on vous écoute.
Donc les anges dirent, ô Marie, Dieu t'a choisi, en vérité. Il t'a purifié, il t'a choisi de préférence à toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, sois pieuse envers ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ça, c'est le Coran qui parle, la sourate 3, versets 42 et 43. Avec tout ça, normalement, on continue encore sur la naissance de prophète Jésus. Nous lui avons envoyé notre esprit et se présenta devant elle sous la forme d'un homme parfait. Elle dit, je cherche une protection contre toi auprès du miséricordieux si toutefois tu crains Dieu. Il dit, je ne suis que l'envoyé de ton Seigneur pour te donner un garçon pur. Elle dit, comment aurais-je un garçon? Aucun mortel ne m'a jamais touché et je ne suis pas une prostituée.
Allez-y, finissez. Il dit encore, pas tout lire, mais...
elle répond toujours, c'est ainsi ton Seigneur a dit cela, mais facile. Nous ferons de lui un signe pour les hommes, une miséricorde venue de nous. Le décret est irrévocable.
Alors, peut-être, on va pas lire comme ça tout le passage, mais en gros, ce qu'on en comprend, c'est qu'en fait, tout comme les chrétiens, vous considérez en fait que Jésus est né aussi de manière miraculeuse, qu'il est né de Dieu, en fait, quelque part. C'est pour ça que vous utilisez le terme, entre autres, verbe de Dieu.
C'est le souffle divin. C'est le souffle divin que Dieu a soufflé à Marie. Donc, il a donné ce souffle divin, parce que n'oublions pas, selon l'histoire aussi, et selon la tradition, Dieu a préféré deux familles, la famille d'Imran. Donc, Marie, elle fait partie de la famille d'Imran. Donc, et puisque Imran, la femme d'Imran,
est la père de Moïse.
Voilà. Et de Moïse, voilà.
Alors, Père Jean Crochet, expliquez-nous pour ces histoires des deux familles qui ont été choisies.
Il y a deux familles, effectivement, qui ont été préférées. Et il y a d'ailleurs un petit problème par rapport à Marie, justement. Il y a une assimilation qui est faite entre Marie, sœur d'Aaron, donc dans l'Ancien Testament, vers le XIIIe siècle avant le Christ, et Marie, mère de Jésus, donc au début de l'ère chrétienne. Voilà, donc la famille d'Imran, c'est d'ailleurs le titre d'une sourate, c'est la famille de Moïse, donc a été choisie, de même que Marie a été choisie. Voilà, les deux familles choisies. Par rapport à la...
Donc il n'y a pas de différence, en tout cas, sur la naissance, on va dire, dans les deux traditions, c'est quasiment la même chose.
Il y a des expressions extrêmement différentes. Hein. Alors, pour juste... préciser un petit peu ce que disait Ferry. Effectivement, dans la naissance miraculeuse de Jésus, l'important n'est pas tellement la réalité biologique. Effectivement, il y a une réalité biologique particulière, mais puisque Jésus est la parole et l'action de Dieu, il faut que dans son humanité même, il soit aussi l'expression directe de Dieu. Donc, il n'y a pas une seconde paternité humaine qui s'interpose.
Alors, Yves Stassel, je vous vois froncer les sourcils quand je dis qu'il n'y a pas de différence. Moi, j'avais quand même souvenir qu'aussi dans la tradition chrétienne, il y a aussi des anges qui se mettent à chanter, qui conduisent des bergers et qui expliquent qu'aujourd'hui est né un sauveur. Alors, ça, c'est pas quelque chose qui est exprimé dans la tradition musulmane, me semble-t-il.
Il y a Gabriel.
Oui, alors... Moi, du
est-ce que vous voulez faire des précisions, en tout cas, sur cette
la tradition chrétienne, peut-être là où il y a peut-être une pierre d'achoppement, ce serait le fait que, pour nous, le Christ est engendré par Dieu, et donc qu'il est de même nature que le Père. Je pense que ça, au niveau de la tradition musulmane, c'est difficilement acceptable.
Dieu n'a pas de fils.
Dieu n'a pas de fils. Sinon, il serait associé, ou je ne sais pas comment vous appelez ça, je crois quelque chose de cet ordre-là.
Associationnel.
Voilà. Alors, si on avance, après, les faits marquants dans la vie de Jésus, c'est-à-dire que dans le Coran sont cités un certain nombre de faits marquants. Alors, est-ce que vous reprenez à votre compte certains passages des évangiles? Est-ce qu'il y a dans le Coran, en fait, des passages de la vie de Jésus qui sont repris? Ou est-ce que ce n'est pas le cas? Et dans ces cas-là, qu'est-ce que vous retenez, en fait, comme fait saillant de la vie de Jésus, vous, dans la tradition musulmane, Abdel Ali Renan?
Voilà. Parmi les faits marquants de Jésus dans le Coran, déjà là, lorsqu'il a parlé dans le berceau, et là le verset coranique il le confirme bien en disant, il dit malheur, déjà Marie, il dit lorsqu'il voulait accoucher de Jésus, il dit malheur à moi que ne suis-je déjà morte, totalement oubliée. Et c'est là où l'enfant il va intervenir, c'est là où Jésus il va parler. Il parle, il dit l'enfant qui se trouvait à ses pieds l'appela. Ne t'attriste pas, ton Seigneur a fait jaillir un ruisseau à tes pieds. Donc là, c'est déjà le miracle de Jésus dans le Coran. C'était dans le Coran, ça veut dire qu'il a parlé dans le berceau. Et si vous voulez, normalement, il dit aussi, secoue vers toi le tronc de palmier, il fera tomber sur toi des dattes fraîches et mûres, mange, bois et cesse de pleurer. Là déjà, le miracle de Jésus dans le Coran, c'est qu'il parle normalement lorsqu'il était enfant, lorsqu'il était bébé dans le berceau.
D'accord. Les autres miracles, quels sont-ils? J'ai lu qu'il avait guéri des lépreux, guéri des aveugles.
Exactement. C'est cité dans
ressusciter
le Coran.
Ressusciter
des morts. Et ça, ressusciter des morts, ça veut dire pour montrer, pour Dieu déjà, à travers Jésus, montre qu'il a une force divine, mais toujours à travers Jésus. Parce que Jésus aussi, lorsqu'il parlait, à un moment donné, lorsqu'il, ça je crois, c'est cité dans l'évangile, ils lui posèrent la question. D'où viens-tu? Je viens de Dieu. Où tu vas? Je vais chez Dieu. Et de où tu vas? Et parfois, lorsqu'il est dans l'ivresse, on peut aller trop loin. Et c'est là où les soufis aussi arrivent à cet état d'extase. Lorsqu'il est dans l'ivresse spirituelle, Jésus, il dit, je suis lui. Et lorsqu'il dit lui, ça veut dire qu'il parle de son Seigneur. Et aussi, parfois, il y a parmi des soufis, lorsqu'ils sont dans l'état d'ivresse, ils disent que je suis lui.
Donc je suis lui.
Et le prophète aussi, Mohammed al-Salam, le prophète sur lui, le salut, la paix, il a dit dans un hadith, il y a un moment où il n'y a aucun, il y a ni les terres, ni les cieux puissent me suffire, sauf le cœur d'un serviteur croyant. Ça, c'est Dieu aussi qui parle à travers, sur la langue de prophète, qu'on appelle un hadith Qudsi. Donc, même Dieu, il a parlé à travers le prophète. Ça veut dire même Dieu, il peut incarner, être habité dans le cœur d'un serviteur croyant. Mais par contre, c'est métaphore, ça. C'est très, quelque chose qui est très, très spirituel et très élevé.
En tout cas, donc, vous reconnaissez que Jésus a dans sa vie donc, fait des prodiges d'une certaine manière. Hein,
exactement.
Et qu'il est, il est un maître spirituel qui a été jusqu'à vivre dans une très grande union à Dieu, si j'ai bien compris. Hein.
Exactement.
Alors, frère Yves Stossel, si vous deviez de même résumer les faits marquants de la vie de Jésus, qu'est-ce qu'il y a de semblable et qu'est-ce qu'il y a de différent, ou qu'est-ce qu'il y a en plus?
Alors d'abord, moi, ce qui m'étonne dans la vie de Jésus, c'est 30 années de silence. Donc pour moi, c'est déjà un fait marquant. C'est 30 années de silence et 3 ans de vie publique. C'est étonnant. Le Fils de Dieu reste silencieux 30 ans. Moi, ça me questionne, ça me fait réagir. Alors il a commencé sa vie publique et c'était un homme qui était en route, en chemin. C'était tout le temps quelqu'un qui était en train de marcher. Et sur cette route, ce qui les fait marquants, c'est ces rencontres qu'il fait avec les hommes et les femmes qu'il rencontre tout au long de sa route. Et donc, les 3 piliers essentiels de ce qu'il a vécu, c'est à la fois des guérisons, l'enseignement et la proclamation de la bonne nouvelle. Et ensuite,
donc les guérisons, on voit à peu près, mais pour les deux autres, comment vous préciseriez?
Alors, l'enseignement, très souvent, on nous en dit pas grand-chose. Donc, dans les évangiles... En même temps,
il y a quand même énormément de paraboles. On rapporte des propos de Jésus.
Par des paraboles, oui. Mais aussi en reprenant l'Ancien Testament, en montrant comment s'accomplissent en lui les paroles de l'Ancien Testament. Mais je crois que les autres faits marquants, c'est bien évidemment sa mort et sa résurrection.
D'accord. Vous citeriez pas d'autres passages dans les évangiles, je sais pas, dans les propos qu'il a tenus, il y a quand même d'autres choses que de guérir des aveugles ou des lépreux.
Oui, bien sûr, oui. D'autres faits marquants, c'est par exemple la transfiguration. Donc cette expérience spirituelle qu'ont vécu trois apôtres avec lui au moment où à travers cette expérience, il découvre vraiment comment le Christ est fils de Dieu, Jésus est fils de Dieu. Les autres faits marquants, c'est essentiellement comment il révèle la présence de Dieu auprès des hommes pour les sauver de leurs péchés.
Alors justement, Jésus, si je ne me trompe pas aussi, dit lui-même en fait qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Enfin, il est venu pour sauver les hommes, et donc il se pose. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a entre autres été condamné par les juifs de l'époque. C'est-à-dire que il dit de lui qu'il peut pardonner les péchés, les fautes, les manquements d'amour. Enfin voilà, c'est pour expliciter.
Oui,
ça c'est quand même quelque chose de fondamental.
Oui, en tant que fils de Dieu, pouvoir dire ça, c'est fondamental. Mais en même temps, il faut aussi se rappeler qu'il dit toujours aussi aux personnes qu'il a guéries, ta foi t'a guéri. Donc c'est-à-dire ta foi en moi. Et en la puissance de Dieu de guérison, t'as guéri.
Alors, il faut qu'on avance. Hein. Abdelali Renan, si vous deviez aussi dire, donc, vous l'avez dit au début de cette émission, la place que Jésus a dans l'histoire sainte. Donc, on a bien compris qu'il avait une place particulière. Mais vous nous avez dit aussi au début de l'émission qu'à la fin des temps, il aurait aussi une place particulière. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire quelque chose de ça? Enfin, pardon. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot déjà de sa mort? C'est quand même très important. Comment, dans la tradition musulmane, vous voyez la mort de Jésus? Si j'ai bien compris, en fait, pour vous, il n'a pas été crucifié, et il n'est pas mort sur la croix. Et puis, dans un second temps, nous dire quelle place il a dans l'histoire du salut ou dans l'histoire sainte.
Bon, si je peux parler par rapport à sa mort, normalement, dans la tradition musulmane, il n'était pas mort. Il est élevé. D'ailleurs, il n'est pas le seul qui a été élevé. Parmi les prophètes, il y avait aussi Élie, Idriss et Enoch. Ils étaient élevés aussi. C'est pas le premier qui a été élevé. Et lorsqu'on dit, ça veut dire cette élévation, c'est une... Si vous voulez, c'est une occultation, mais aussi une présence, en permanence. Parce que normalement, on peut pas lui donner un espace-temps. Mais par contre, sa présence, elle est toujours là.
Alors, qu'est-ce qui s'est passé au moment de ça? Enfin, il est pas mort, tout simplement. Il a été condamné par
dans
par
la tradition, normalement, et lorsque les gens rentraient pour le tuer, elle était semblable à Jésus. Et Jésus, il était élevé auprès de Dieu.
C'est-à-dire qu'en fait, il avait un sosie, c'est ça? Ou il y avait quelqu'un qui lui ressemblait, et lui, il a été élevé auprès de Dieu juste avant de se faire arrêter.
Pour Dieu, il a élevé, il a sa ressemblance, elle est tombée sur la personne qui ont tué et qui ont crucifié.
D'accord. Et alors, quel est le sens du fait, pour vous, enfin, dans la tradition musulmane, quel sens y a-t-il au fait que Jésus ait été élevé comme ça? Et qu'il soit pas mort et qu'il n'ait pas été crucifié.
Il était un être spirituel, quelqu'un qui est vraiment il y a ce message divin qui est à travers lui, donc Dieu ne veut pas tuer ce message divin, donc il a élevé chez lui. Et par contre, on attend le retour.
Alors on attend le retour, ça veut dire quoi?
On attend le retour de Jésus, parce que même le prophète il disait dans un hadith, je prépare parmi ma communauté des apôtres pour accueillir Jésus.
D'accord, et le retour de Jésus, ça signe quoi? C'est la fin des temps pour vous?
C'est le retour où la tolérance, la fraternité, le vivre ensemble, ils vont se régner sur terre. Donc il va venir lui pour que la paix soit répandue sur terre.
D'accord.
On peut le sentir, mais parfois on peut le sentir, il y a la paix. Lorsqu'on parle de la paix intérieure, lorsqu'on est en paix intérieure, là il y a la présence de Jésus aussi.
Alors frère Yves Stossel, sur la mort de Jésus, la distinction peut-être entre chrétiens et musulmans.
Oui, alors, je crois qu'il y a quelque chose de fondamental là, c'est que pour nous chrétiens, Jésus-Christ est vraiment mort, et en cela il a rejoint la condition humaine dans ce qu'il y a de plus absolu et de plus radical.
Jusqu'au bout.
Voilà. Allez-y, continuez.
Et je crois que ça c'est quelque chose d'important pour nous chrétiens, c'est-à-dire que Jésus, il est venu nous rencontrer dans notre condition, et donc on peut avoir une relation humaine et avec lui, et profonde, et une intimité dans ce qu'on vit. Il peut nous comprendre, il peut nous écouter, il peut sentir ce qui se passe en chacun de nous, parce qu'il est venu nous rejoindre là et jusque dans la mort.
D'accord.
Devant la mort, on est ignorant. On est...
Et la mort sur la croix, qui est aussi un signe de salut pour nous, alors ça, vous pouvez préciser.
La mort sur la croix est devenue pour nous un signe de salut, effectivement. Alors,
ça veut dire quoi, un signe de salut, alors ?
C'est-à-dire qu'à travers cette mort, Dieu et la résurrection, parce que je pense qu'il faut absolument lier la mort et la résurrection, Dieu nous révèle que l'homme est créé pour l'éternité et pour une rencontre avec Dieu dans l'éternité.
Alors on va faire une deuxième pause musicale et puis on va finir cette émission peut-être en récapitulant deux, trois choses pour plus de clarté et puis en voyant, même si on l'a entrevu, la place qu'a Jésus dans votre vie spirituelle à vous, à chacun, ce qui permettra peut-être de donner un peu de chair à cette manière de récapituler.
Dans le Luchonnais, 94 FM.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
Ce matin, donc, cette émission Musulmans chrétiens, que pense-t-il de Jésus ? Si vous nous prenez en cours de route pour cette émission qui touche presque à sa fin, je rappelle que nous sommes avec Abdel Ali Renan, qui représente les musulmans ici, qui est entre autres président de l'association Aïssa et qui est soufi, et le frère Yves Stessel, qui est jésuite, et le père Jean-Jacques Rochy, qui est délégué au dialogue interreligieux pour le diocèse de Toulouse. Dans cette dernière partie, on va essayer de récapituler un petit peu ce qui s'est dit pour cette émission qui, on l'espère, est introductive à d'autres. Abdel Ali Renan, est-ce que vous pouvez nous préciser le statut de Jésus par rapport à Mahomet ? Parce qu'à vous entendre, Jésus est quand même un homme très particulier. C'est le Verbe de Dieu, il est né de manière miraculeuse. Vous avez des propos. Il est comme s'il nous introduisait aussi à la vie de Dieu, comme s'il vous précédait, même presque dans la vie mystique qui semble être la vôtre. Du coup, on a envie de dire, sans vouloir être injurieux, il est presque comme Mahomet, ou c'est presque un super Mahomet. Alors, comment vous préciseriez ça ?
Si vous voulez, normalement, le prophète Mohammed, sur lui, le salut à paix, lorsqu'il est venu pour ce message, Il est venu pour être serviteur de l'humanité. Et Jésus, il était serviteur de l'humanité, parce que même Jésus, sur le Coran, il dit que je suis un serviteur de Dieu. Il m'a donné le livre, il a fait de moi un prophète, il m'a béni où je sois. Il m'a recommandé la prière et l'aumône tant que je vivrai. Et la bonté envers ma mère, elle parle de sa mère Marie, et il ne m'a fait ni violent ni malheureux. Que la paix soit sur moi le jour où je naquis, le jour où je mourrai, le jour où je serai ressuscité.
D'accord, mais alors quelle différence avec Mahomet dans ces cas-là?
Mahomet,
c'est quoi? C'est le grand prophète et Jésus, Mohamed, c'est le croyant par excellence, je sais pas.
Mahomet, c'est le prophète Mohammed sur le salut à la paix, c'est le sceau de la prophétie. C'est lui qui a clôturé le message prophétique. Il y a un exemple très très vivant du Cheikh Khaled Ben Tounes dans une conférence. Il parlait de Jésus et de Mohammed. Il s'est levé, il a mis ses bras comme ça. Il a dit, c'est
donc,
Jésus.
Les bras en croix.
Il a dit, c'est Jésus, il vous a ouvert les bras. Le prophète Mohammed, il vous a réuni. Donc les deux, ils sont venus pour le même message, unir et répandre la paix sur terre.
Maintenant, il n'y a pas d'égalité quand même, j'imagine. Si, est-ce qu'il y a une différence, je ne sais pas, de niveau, mais ce n'est pas la bonne
expression. Il n'y a pas une différence de niveau parce que le Coran le dit, « La nufarriqu bayna ahadin min rusulihi ». On ne fait pas une préférence de ces prophètes. Certes, il a élevé quelques-uns, il a parlé avec Moïse, l'Esprit de Dieu, c'est Jésus, le serviteur, c'est le prophète Mohammed alayhi salam. Et même en allant trop loin, le père de monothéisme, Abraham, il était appelé l'ami intime de Dieu, Abraham.
Alors Père Jean-Jacques Rochy, moi j'ai une question et puis après je vous donne la parole, frère Yves Stessel. Comment comprendre, enfin, on a lu, donc Abdel Ali Renan, je vais y arriver, Abdel Ali Renan nous a lu un certain nombre de passages du Coran qui parlent de Jésus. On a l'impression que pour nous c'est comme des citations des évangiles, mais ce qu'on peut avoir du mal à comprendre quand on lit le Coran ou quand on entend Abdel Ali Renan, c'est qu'on a l'impression qu'il n'y a que des morceaux des évangiles. Alors comment, je ne sais pas, comment la tradition musulmane a sélectionné, enfin pour nous, des parties d'évangiles.
Alors bon, il faut reprendre toute l'histoire de la conception différente de l'origine du livre. Hein. Le Coran se présente un peu comme une rectification de toutes les écritures antérieures, donc il ne va pas reprendre la totalité des messages. En plus, les thèmes sont traités non seulement selon leur contenu conceptuel, selon les idées, mais aussi selon une musique uniquement en arabe. Et c'est finalement l'harmonie de la langue arabe qui fait la logique avec des rythmes, avec des assonances. Donc on n'est pas dans une composition grand 1, grand 2, grand 3, avec on traite ce thème, puis on passe à un autre. On a l'impression d'un grand mélange.
En tout cas, il y a eu comme une sélection en fait de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament.
Un message oral qui a été ensuite mis par écrit. L'écriture a été précisée. Il a fallu 2 siècles pour techniquement les points, les traits, tout ça pour que l'écriture soit complète. Et c'est un texte qui a été manifestement aussi remanié. Alors l'inspiration évangélique pour la conception islamique, c'est Dieu qui révèle au prophète Mohammed des passages des livres antérieurs qui lui paraissent nécessaires à rappeler, et on renvoie pour le reste au message. Alors, il y a à nos yeux certains passages des évangiles canoniques qui se retrouvent effectivement avec notre vocabulaire dans le texte coranique, mais aussi ce que nous appelons les apocryphes, c'est-à-dire des traditions pieuses qui n'ont pas été retenues dans les évangiles canoniques, mais qui ont eu une place dans la spiritualité. Alors on retrouve effectivement le fait que Jésus parle à sa naissance, le fait qu'il va créer un oiseau en argile, tout ça est dans ce que nous appelons les évangiles apocryphes.
Alors, frère Yves Stessel, on a compris donc, à peu près donc la place qu'a Jésus dans la tradition musulmane. C'est vrai que c'est probablement pour beaucoup une découverte. Hein. Il a une place quand même très importante, très particulière. Si vous deviez résumer là où nous cessons de nous rejoindre, c'est que nous, Jésus, dans la tradition chrétienne, est plus qu'un homme ou plus qu'un croyant par excellence.
Oui, je crois que là où on cesse de se rejoindre, c'est effectivement que Jésus est le Fils de Dieu. Et en cela, on peut avoir une relation profonde avec lui. Et j'insiste beaucoup sur cette relation parce que je crois que c'est fondamental.
Mais le fait que ça soit un grand spirituel n'empêcherait pas peut-être d'avoir une relation mystique avec lui. C'est en quoi le fait qu'il soit Dieu permet davantage cette relation personnelle que vous décrivez et qui semble être le cœur de votre vie.
C'est une question qui m'a
bonne question.
Ouais, bonne question. Je crois que je suis en train de caler, mais...
Allez-y, alors Père Jean Crochet, est-ce que vous voulez peut-être l'aider sur cette grande différence?
Dieu seul, puisqu'il est le tout autre, peut mettre en relation avec Dieu. Et si Jésus peut nous donner cette relation tout à fait particulière avec Dieu, c'est parce qu'il est Dieu et qu'il a rejoint l'homme jusque dans sa mort et dans son malheur. Et donc il a établi une connexion. Et c'est le cœur de la foi chrétienne, c'est effectivement que dans la suite de la foi biblique, Dieu cherche l'homme, Dieu cherche le contact avec l'autre pour lui communiquer, avec l'homme pour lui communiquer sa vie. C'est donc une affaire de contact, au-delà des mots, même de la spiritualité ou de la vie morale ou de la vie de prière. Jésus est celui qui est le contact, celui, vous savez, dans la fresque de la chapelle Sixtine,
À Rome,
Dieu le Père qui touche le doigt d'Adam. Eh bien, voilà, c'est cette confluence de la main de Dieu et de la main de l'homme qui se noue dans la personne de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, Verbe de Dieu incarné. Alors, Fils de Dieu, c'est une expression qui gêne la sensibilité islamique parce que ça a l'air d'abaisser la transcendance de Dieu dans une espèce d'opération plus ou moins charnelle. Et donc l'expression fils de Dieu, voilà, de là c'est pas possible. Ibn Allah à la rigueur. Et donc voilà, le Coran préfère parler de Verbe de Dieu, d'Esprit de Dieu, hein, sans évidemment lui mettre tout le contenu dogmatique que met la foi chrétienne dans ces deux termes.
Eh ben merci beaucoup à nos invités donc d'être venus s'essayer à cette première émission. On espère qu'elle a éclairé tout à chacun. Peut-être Père Jean-Jacques Rochy, pour finir très rapidement, une prochaine rencontre donc du GAIC. Vous dites en deux mots ce que c'est que le GAIC et quand est cette rencontre.
Groupe d'amitié islamo-chrétienne, troisième samedi de novembre, cette année 2016, le 19, à la grande salle de La Fourguette, hein, dans les quartiers de Toulouse. Donc cette année, le thème, ce sera notre commune attention, chrétiens et musulmans, aux pauvres, en particulier avec les maraudes ou avec d'autres activités du secours islamique.
Voilà, donc le 19 novembre prochain, la rencontre du GAIC. Merci beaucoup à nos invités d'avoir relevé le défi. On espère que cela vous a éclairé et que vous avez compris l'intention profonde de cette émission. Cette émission a été réalisée par Christophe Aubry. Vous pouvez la réécouter ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00 ou par mail à contact@radioprésence.com.